Bonjour Mathieu.
Salut Martin.
Un mot sur Bernard Landry.
Oui, ben écoute, je sais que tu en as parlé hier en fin d'après-midi quand tout ça a été rendu public. Au lieu de rendre un hommage à Bernard Landry, je vais te parler quand même d'un aspect visionnaire de ce monsieur-là parce que c'est lui qui a pondu la politique technologique du gouvernement. 1979-1982, où il pond un document où il dit « Le Québec doit prendre le virage technologique rapidement. » Et c'est ce qui en a découlé des fameux crédits qui ont été donnés à l'industrie du jeu vidéo, ce qui
et
fait
Ubisoft,
que l'on...
Exactement. Est venu s'installer.
Exactement. Puis... Ouais. Mais rappelle-toi, Martin, 82, là, le Québec est en plein Sherbrooke. On avait des entreprises de textile qui roulaient à fond, à peine à la planche. Ouais. La ville d'où je suis originaire, à Montmagny, avait au moins 3 usines qui embauchaient 300 à 400 personnes dans une population de 12 000, qui étaient des usines de textile. On était encore à cette ère où on était dans une technologie qui était vraiment, vraiment minimaliste, qui demandait pas de la main-d'œuvre spécialisée, qui était quasiment un espèce de soubresaut, finalement, de l'ère du développement, développement industriel.
Et même du point de vue informatique, on était à l'ère du Commodore 64.
Ben oui, c'est ça. Écoute, 82, c'est les premiers moments. Et lui avait eu la vision en se disant, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon, on s'en va dans le mur avec ça. Et la preuve, c'est qu'il y a des municipalités qui ont vécu, Magog l'a vécu durement.
Oui, oui.
Sherbrooke, quand la textile a fermé, ça a été extrêmement difficile. Je pense à des villes, Montmagny, à laquelle d'où je viens, ça a été excessivement pénible pendant des années. Huntingdon, ce qui a mis Stéphane Gendron sur la map.
Oui.
C'est le Québec, Trois-Rivières, avec la fermeture de moulins à scie et de textile qui datait d'une autre époque. Et déjà à ce moment-là, alors que ces usines-là viraient à planche et on ne voyait pas une fermeture éventuelle, lui avait vu ça. Mais je veux juste surtout te raconter. Moi, je l'ai rencontré une couple de fois, probablement comme toi, là, pour des entrevues.
Oui, oui.
Et c'est l'une des premières rencontres que j'ai eues comme journaliste quand j'ai commencé ma carrière. Bernard Landry, c'était la course à la succession de Lucien Bouchard, si ma mémoire m'est fidèle. Il y avait Bernard Landry et Pauline Marois qui étaient les deux plus sérieux prétendants.
Mm-hmm.
Bernard Landry, c'était quelqu'un qui n'était pas facile à vivre pour les équipes qui étaient autour de lui. C'était quelqu'un d'excessivement exigeant. Il avait un tempérament intempestif. Si vous avez vu « À hauteur d'homme », le documentaire, on le voit. Là,
oui.
Puis il n'y avait rien de normal là-dedans. Là.
Ah oui.
Mais c'était quelqu'un qui avait un tempérament intempestif.
Parce que lui, il savait où s'en allait. Là.
Il savait où s'en allait. Oh, oui, exactement. Sauf que la première rencontre, j'ai jamais raconté ça en nom de Martin parce que écoute, j'avais pas de preuves pour appuyer ça, mais je m'en souviens comme si c'était hier.
Ouais.
Bernard Landry est de passage dans la région de Lac-Mégantic. Moi, je suis journaliste à la radio. On se retrouve, on est les trois médias habituels. Nous autres, l'hebdo local, puis un mensuel qui sont là. On rencontre Bernard Landry et Pauline Marois, dans la matinée, fait une déclaration. Et si ma mémoire m'est fidèle, c'est à la presse qui, elle te le pine solide, là. Elle va pour le faire sortir de ses gonds.
Mm-hmm.
Bernard Landry est mis au fait de ça juste avant la rencontre de presse qu'il a avec nous à Mégantic. Moi, je discute avec les gens, le point de presse se termine, je reste un petit peu plus longtemps et là, je sors de la salle à l'extérieur. Bernard Landry est dos à moi et il est avec son... il y avait deux personnes avec lui, le membre de son équipe. Et je l'entends vociféré et qualifiant dans des mots peu élogieux Pauline Marois à cause de la sortie qu'elle avait faite le matin même.
Oui.
Et je peux te dire une chose. Quand il y a un des membres de son équipe qui m'a vu avec mon enregistreuse, puis il a pointé, écoute, je me souviens de ça comme c'était hier, là, il me pointe du doigt et Bernard Landry se retourne et il me voit. Je te jure, il est devenu blanc comme un drap. Parce que si j'avais enregistré à ce moment-là
et diffusé
cet extrait-là,
ça faisait
sa course à la succession,
fini.
Je ne sais pas si elle était terminée, mais ça lui aurait fait excessivement mal parce que les qualificatifs qu'il utilisait, je ne les répéterai pas, là, mais je m'en souviens mot à mot précisément, et c'était très peu élogieux envers Pauline Marois, mais ça faisait partie, il avait été piqué, puis il avait ressorti ça, puis il était avec ses proches. Mais c'est un peu, moi, l'image que je garde du bonhomme.
Mm-hmm. Oui. Ah ben oui, puis tu sais, souvent l'image publique, puis dans les corridors.
Bernard Landry, là, on s'entend, c'était quelqu'un, c'est un érudit. Puis dans une entrevue, il savait les dossiers, puis s'il aimait pas les questions qui lui étaient posées, s'il avait l'impression que la personne devant lui maîtrisait moins les dossiers ou était peut-être de mauvaise foi, il maîtrisait à ce point ses dossiers, puis il avait tellement une maîtrise de la langue qu'il pouvait faire très mal paraître la personne qui était devant lui lors d'entrevue. Là.
Absolument. Parlons également de ses résultats. Bon, la vague anti-Trump ne s'est pas trop manifestée hier.
Pas du tout.
Il y a eu un soubresaut, mais encore là, Trump aujourd'hui est quasi aussi fort qu'il l'était hier.
Moi, je te dirais que deux affaires que je retiens là-dedans. Cette fois-ci, les sondages n'étaient pas trop dans le champ. Parce que si tu regardes les sondages qui avaient été faits...
Ben, ils donnaient une vague partie.
Les commentateurs donnaient une vague bleue. Puis là, tu dis, est-ce que c'est un rêve souhaité ou une réalité quelconque? Mais il y a quelque chose que les sondeurs se sont rendus compte, c'est que... Puis je l'entendais beaucoup aux États-Unis, c'est que... On se rend compte que ceux qui appuient les républicains, et surtout depuis que Trump est là, ont un peu, c'est un peu comme l'effet des libéraux ici. Oui. Les gens ont moins tendance à le témoigner dans des sondages en disant « on vous appelle pour prendre vos intentions de vote, pour qui vous allez voter ». Souvent, ils préfèrent pas répondre que de dire qu'ils vont voter pour Donald Trump. Ça, c'est une chose. Les sondages n'étaient pas trop dans le champ parce que moi, je lisais en fin de semaine, on se disait « Sénat, ça va probablement rester pour les républicains ». Peut-être que la Chambre des représentants était un petit peu moins forte, mais je te dirais surtout ce que je retiens. C'est que en date d'aujourd'hui, si Donald Trump veut être réélu à un deuxième mandat en 2020, il a d'excellentes chances d'être réélu à moins d'une gaffe majeure. Parce que avec les ou de problèmes quelconques qu'il pourrait rencontrer que l'on ne connaît pas pour le moment, mais pour l'instant, malgré toutes les controverses qui ont touché son administration, malgré tout ce qui a été dit, c'est plus viscéral que... C'est-tu pour Trump ou c'est contre Trump? Il y a des États, il y a des gens qui sont des républicains purs et durs, ils voteront jamais pour un démocrate. Ouais. T'as des démocrates, le Parti démocrate est exactement à la même position, selon moi, que les républicains l'étaient dans les années d'Obama. Ils n'ont personne.
Non, il n'y a personne. La preuve, c'est qu'Obama, c'est lui qui a fait la campagne mi-mandat et pour les démocrates.
Les démocrates se sont détachés de leur base, ils ont encore un fort attachement à leur establishment. La preuve, c'est que Andrew Gillum, là, qui était celui qui était à la course pour devenir, pour être élu en Floride contre Rob DeSantis, une des courses qui devait être les plus serrées finalement, Gillum, c'est pas un membre de l'establishment démocrate. C'est un gars qui est dans la frange de Bernie Sanders, qui sort de la gauche complètement. L'establishment démocrate s'est fait battre dans un paquet de courses avec leur candidat qui présentait, puis la base qui vote a dit « on veut rien savoir d'eux autres, on veut avoir quelqu'un d'autre à la place ». Donc, là, tu te retrouves à deux ans des élections, ils n'ont pas de vedette. Puis là, on se dit, est-ce que ça va être Beto O'Rourke, qui était le candidat au Sénat contre Ted Cruz au Texas? Beto O'Rourke, il n'a pas gagné. Il a perdu. Il a fait une maudite belle course, par exemple, au Texas. On s'entend que c'était pas gagné d'avance.
Ouais.
Mais là, tu es en train de te dire, est-ce qu'un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience politique, qui a été battu au Sénat, c'est lui qui va nous amener vers la terre promise pour aller battre? Honnêtement, là, bonne chance.
Ouais.
Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Écoute, je peux pas croire que Hillary Clinton va revenir. Là. L'establishment des démocrates doit, à un moment donné... Tu sais, ça me fait penser...
Faire exactement ce que certains partis au Québec, c'est-à-dire de se reconnecter sur le peuple.
Ils ont une tendance, puis les péquistes vont m'aimer, là, ils ont une tendance un peu à la péquiste. C'est-à-dire de remettre la faute sur tout et son prochain.
Sauf eux autres.
Pourquoi ils ont été battus. Mais rarement sur l'introspection, sur pourquoi ils ont été battus, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute. Puis ça, il y a des. Tu sais, là, j'en parlais avec des amis américains, ils disaient, là, on sous-estime à quel point il y a une écœur en titre de la part de l'establishment. Karine Prémont te l'a bien raconté aussi avant hier. Écoute, c'est plus fort et viscéral
et
que
ça. Ça amène du monde à aller voter.
Ah, ça, c'est clair.
On termine ça avec une vidéo virale d'un ourson et de sa maman.
Écoute, Martin, ça a été viral. Je te parle de ça aujourd'hui parce que c'était tellement viral que l'on a vu... C'est un petit ourson qui est dans une pente et qui est avec sa mère. Il suit sa mère sur une pente enneigée, puis il descend, il tombe, il remonte.
C'est très apique.
Ah oui, c'est très apique. Ouais. Là, on se dit, quel exemple de persévérance. Le punch, là, je vous le dis tout de suite, il réussit à rejoindre sa mère en haut, mais ça prend pas mal de temps puis ça prend pas mal de descente.
Sauf que...
Il y a des spécialistes des ours. Toronto Star a été un des premiers à mettre un article là-dessus il y a deux jours. Atlantic fait la même chose aujourd'hui. Et des spécialistes des ours disent hey, « Arrêtez-moi ça, le facteur cuteness. C'est pas si cute que ça parce que ce que l'on suppute, c'est que par le comportement de la mère ours, c'est que c'est le drone qui filme qui les a poussés vers la falaise enneigée. Parce que pour les spécialistes, ils s'entendent tous, ils se disent « Impossible qu'une maman ours, avec son rejeton, se jette dans quelque chose d'aussi risqué sans penser qu'elle fuit pour sa vie, finalement. »
Oh oui.
Elle met sa vie en péril parce qu'elle pense que l'autre danger est encore plus imminent.
Mm-hmm.
Et les spécialistes, eux, sont à peu près convaincus que c'est le drone qui filme qui fait avec son bruit strident.
Et à la mer et à l'ourson.
Et à l'ourson, qui les pousse vers la falaise, qui nous donne ce petit facteur cuteness-là. Ouais. Pas mal moins cute. Puis là, ce que disent... Tu sais, les drones, là, pour la science, pour les biologistes, ça a été... Puis c'est ce que disent, ça a été merveilleux parce qu'ils ont été capables d'aller dans des territoires, observer des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Par contre, il y a une utilisation de ça qui... Et habituellement, les biologistes sont là puis ils disent, regarde, tu peux pas descendre à moins de telle hauteur. Ouais. Garde-toi une certaine distance. Pour certaines espèces, approche-toi même pas parce que ça va les faire fuir puis ça va les mettre en danger.
Ouais.
Or que pour une vidéo virale, on dirait qu'on est prêt à faire n'importe quoi, quitte à mettre. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans des vidéos animalières, malheureusement. Mais ça, c'en est un bel exemple.
Merci, Mathieu.
Salut.